Rencontre littéraire. Aragon, un destin français, tel est le titre d'une importante biographie de la figure incontournable de la littérature française du XXe siècle, signée Pierre Juquin. Homme politique, syndicaliste et écrivain, Pierre Juquin a été témoin d'une partie de la vie de Louis Aragon et a été, comme lui, membre du comité central du Parti communiste français. Il affirme avoir rédigé son livre sur Aragon selon les méthodes de la critique scientifique et avec le souci de donner une image objective du géant des lettres françaises. « Je l'aime beaucoup, mais je ne lui fais pas de cadeau », dit-il. Voici la seconde partie de l'entretien sur son livre que Pierre Juquin a accordé à Radio Prague. Aragon était donc un membre, on peut dire, influent du Parti communiste. Dans quelle mesure voulait-il et pouvait-il influencer la politique du parti ?
Mais Aragon a adhéré au Parti communiste en faisant une sorte de pari. Je dirais que le parti, pour lui, c'était un pari. Il m'avait dit une fois, « Mon petit, ce Parti communiste, il parlait du Parti communiste français, ce Parti communiste a tous les défauts que tu lui connais. » J'étais déjà membre du comité central de ce parti comme lui. Mais c'est le seul qui peut changer la vie. Le mot de Rimbaud, faire la révolution, changer la société. Alors, nous allons le changer peu à peu de l'intérieur. C'était le pari d'Aragon.
Il croyait vraiment qu'il allait changer le monde et changer la société.
Oui, oui. Mais il s'est aperçu que c'était beaucoup plus difficile et beaucoup plus dur qu'il ne l'avait cru. Si vous voulez, il a écrit un poème pendant la guerre, ça porte sur l'amour, qui s'appelait « Il n'y a pas d'amour heureux ». Je crois qu'on pourrait reprendre cette expression. Il n'y a pas de politique heureuse. Il n'y a pas d'histoire heureuse. Même l'histoire du communisme. Toute histoire porte du tragique en elle-même. Toute histoire, il y a du sang dedans. Toute histoire est à souffrance. Mais l'histoire avance, le monde bouge, à travers les générations, c'est long, c'est douloureux, à l'intersection, si je peux dire, de la souffrance et de l'espérance. Donc Aragon a dit comme personne la tragédie des communistes au XXe siècle, mais il a pensé, il a cru, je crois jusqu'à son dernier souffle, qu'un jour la société changerait.
Les critiques d'Aragon lui reprochent de s'être montré trop indulgent et même presque aveugle face au procès stalinien. Et quelle est votre opinion sur cette question ?
Mon opinion, ça sera celle de l'historien. Là. Il s'agit de procès des années 1936-1937. Beaucoup de gens se sont trompés. Par exemple, un homme qui a été longtemps à cette époque le compagnon d'Aragon, André Malraux. On ne voyait pas le monde comme on le voit aujourd'hui. Plus grave, Aragon s'est trompé plusieurs fois pendant la guerre froide, parce qu'il voyait le monde partagé en deux, comme beaucoup d'entre nous le voyaient, moi-même, à cette époque, et il voulait être du bon côté de la barricade. Après, il a évolué. Il faut donc situer, ça n'excuse pas, mais ça explique. Comme beaucoup de contemporains, Aragon a pensé qu'il s'était passé à Moscou en 1917 quelque chose qui changeait l'histoire pour toute la planète définitivement. On a vu par la suite que ça n'était pas définitif, mais il l'a cru et il n'avait pas su que ce n'était pas définitif puisqu'il est mort en 1982 et non pas en 1989. Et il a pensé que à travers cette histoire si douloureuse, si dangereuse, si scandaleuse qu'elle fut, il y avait la possibilité de faire évoluer le monde, réaliser le communisme. Dans un roman de 1964, il évoque beaucoup un livre qu'il avait lu à ce moment-là, classique, le Hyperion de Hölderlin, le célèbre auteur allemand. Et il le cite dans sa fin. Hyperion a participé avec des révolutionnaires grecs à la lutte de libération pour la Grèce, un peu comme Byron Moramis-Solonghi, et il est débordé par ses troupes qui saccagent tout. Et il est désespéré, et disons, ils ont tout cassé, ils ont brisé le rêve, mais le rêve continue. Je crois que c'était ce qu'éprouvait profondément Aragon.
Quel a été le rapport d'Aragon vis-à-vis de la littérature tchèque et vis-à-vis des écrivains tchèques? Est-ce que vous parlez de tout cela aussi dans votre livre?
Oui, naturellement. Aragon a connu Vítězslav Nezval en 1935 au congrès des écrivains contre la barbarie pour la culture, Hitler étant arrivé au pouvoir. Ça s'est pas très bien passé au début entre eux, puis après Vítězslav Nezval a suivi le même trajet qu'Aragon et Éluard et beaucoup de surréalistes, a quitté le surréalisme pour venir au Parti communiste. Il l'a beaucoup revu, il a écrit à la mort de Vítězslav Nezval une élégie sur Nezval. Il a écrit sur Vladimir Holan, il a écrit sur des plasticiens, Mucha, et très beau texte, sur Hofmeister, qu'il a très bien connu, dont il a fait la première exposition à Paris, etc. etc. Et en 1968, après avoir été quelques années avant fait docteur honoris causa de l'université Charles, après avoir prononcé un discours sacrilège du point de vue soviétique, il a soutenu le printemps de Prague, il a préfacé le livre de Milan Kundera, La plaisanterie, en disant ce qui se passe là-bas, c'est le Biafra de l'esprit. Il a soutenu d'autres écrivains, il a été très, très lié avec Antonin Lim. Il a pensé toute sa vie que le printemps de Prague était quelque chose d'extrêmement important et que sa destruction par les soviétiques et leurs alliés a été une catastrophe, je le pense aussi.
Et quelles ont été les conséquences justement de cette prise de position après l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'armée soviétique? Parce qu'Aragon, en ce temps-là, était aussi directeur de la revue La Lettre Française.
Pour ce qui est des lettres françaises, la revue, elle vivait en partie... Beaucoup de journaux littéraires français ont disparu dans cette période-là. Ils étaient concurrencés par les News Magazine. Et elle vivait en partie des abonnements de l'Allemagne de l'Est, de l'Union soviétique, etc. L'Union soviétique a supprimé ses abonnements. Il a fallu fermer les lettres françaises. Aragon a été désespéré, évidemment. Ça, c'est la première conséquence. Les autres conséquences, c'est que Aragon est très peu connu en Tchécoslovaquie. Parce que pendant toute une période, il est apparu comme soutenant les révolutionnaires du printemps de Prague. Donc, il n'était pas persona grata, sauf pendant quelques mois. Et après, quand le communisme a été chassé du pouvoir à la révolution de Velours, comme il était communiste, il n'a plus été persona grata. Finalement, on connaît peu Aragon, qui est pourtant le Victor Hugo du XXe siècle, du point de vue des lettres françaises, du point de vue de la littérature française. C'est un très grand écrivain français.
Dans quelle mesure l'invasion soviétique s'est-elle reflétée dans ses opinions politiques et dans son rapport vis-à-vis du communisme en général? Quelles leçons a-t-il tirées de cette expérience?
Il a été renforcé dans l'idée qu'il fallait aller au communisme, au socialisme, par des voies démocratiques, en respectant les libertés, et notamment la liberté de l'écrivain, sur laquelle il a beaucoup écrit à l'époque.
Comment a-t-elle été la dernière étape de la vie d'Aragon, après la mort d'Elsa, époque où il a révélé son homosexualité? Est-ce que c'était encore une époque fructueuse sur le plan littéraire?
Oui, quelque temps. Mais c'est vrai que le génie poétique d'Aragon s'est un peu tari. Il écrit cependant encore de très grands poèmes. Par exemple, un poème à Hölderlin, dont nous parlions tout à l'heure, d'autres encore. Il sort beaucoup, il participe à la vie littéraire de Paris, il est actif. Cependant, vers la fin de sa vie, il était très fatigué, il s'est retiré un peu, mais il est toujours là. Et si vous voulez, il apparaît comme l'éternel homme libre, l'éternel libertin, au grand sens d'autrefois des grands siècles, c'est-à-dire l'homme qui n'admet pas la contrainte. Au fond, le vieil Aragon est encore dadaïste.
Vous avez dit qu'Aragon n'était pas assez connu, n'était pas connu en Tchécoslovaquie, en République tchèque. Est-ce qu'il est connu vraiment encore en France?
Ah oui. Aragon est connu en France pour deux raisons. La première, trois. La première, universitairement, il est très étudié. Il y a beaucoup de thèses, il est au programme des concours d'enseignement supérieur, du baccalauréat, il fait partie de la littérature française. Deuxièmement, beaucoup de Français connaissent Aragon parce qu'ils chantent Aragon. Aragon a été mis en musique par plus de 100 musiciens, parmi lesquels Léo Ferré et Jean Ferrat. Et ces hommes ont réussi à faire descendre dans la rue une poésie difficile, une poésie savante. Et beaucoup de gens chantent Aragon sans le savoir. Enfin, il est lu. Quelques romans d'Aragon, notamment Aurélien, sont encore lus en livre de poche.
Quelles sont les œuvres d'Aragon qui vous sont particulièrement chères et que vous avez toujours envie de lire et de relire? Êtes-vous un lecteur passionné d'Aragon?
Je ne lis pas que Aragon. Il faut lire tout, toute la littérature et pas seulement la littérature française. Mais j'aime beaucoup Aurélien, qui est un très grand roman d'amour de langue française. Je continue à aimer un livre qui a été beaucoup lu en France pendant 20 ou 25 ans, qu'il est moins aujourd'hui, un roman d'histoire, La Semaine Sainte. J'aime beaucoup la poésie d'Aragon. Patrie également à la colombe ou l'aigle. De l'audace et du champ doublement habité, je vous salue, ma France, où les blés et les seigles mûrissent au soleil de la diversité.